Dupont le matin.
Bonjour, ici France, pas le pays. Textez mauvais au 25226. Il n'y a rien à gagner, mais il va finir par comprendre.
Embarque, on n'ira pas vite.
Embarque, on n'ira pas vite.
FM 93, Dupont le matin.
Alors, c'est moins 4 degrés actuellement, mais le ciel est complètement dégagé. Ce sera un superbe 3 jours, là, les 3 jours à venir. Ciel dégagé, oui, des températures fraîches. Tu sais, on a moins 4, on aura 7 le jour. Demain, on monte à 11, on va se lever à moins 1. Et samedi, on monte à 17 degrés, donc en après-midi. Ça va être vraiment parfait pour les activités, dont la course Stock Car à Vallée-Jonction ou encore d'autres activités extérieures. Peu importe, vous allez avoir beaucoup de beau temps. En tout cas, c'est ce qu'on prévoit pour le moment. Avant d'aller en barque, on n'ira pas vite. Je vous rappelle que on a encore l'attribution d'un trailer d'une valeur de 6 000 $ de chez Pro Remorque. C'est l'avant-dernière journée pour vous qualifier. Vous pouvez le faire en vous inscrivant 25226, le mot de passe du jour, c'est ce que ça prend après le véhicule pour tirer le trailer, ça prend une boule, alors c'est boule le mot de passe d'aujourd'hui, et donc c'est un trailer maxi-roule d'une valeur de 6 000 $ qu'on va attribuer demain. On est jeudi aujourd'hui, et le jeudi, on prend toujours le temps de jeter un petit coup d'œil dans les avis de décès. Ce qu'il y a à souligner ce matin, c'est vraiment... c'est toujours triste, puis c'est... Je le dis à chaque fois, là, c'est rare que ça arrive, et tant mieux, parce qu'on a tellement amélioré les façons de faire, la médecine et tout ça, mais on a le décès d'un bébé de 6 mois, donc le petit bébé de 6 mois s'appelait Simone Turgeon, a été opéré à plusieurs reprises au cœur là, depuis le début de sa vie. Elle est donc décédée au cours des derniers jours, le 17 avril plus précisément. Elle était la fille de Jason Turgeon et de Cindy Corriveau. Mes condoléances aux jeunes parents. Ça doit être extrêmement triste. J'ai vu également une jeune femme, Geneviève Nadeau. Je sais qu'il y a des liens avec le Mieux Assurance, là, des liens familiaux du côté de son conjoint. Elle n'avait que 43 ans. Elle laisse dans le deuil, entre autres, et on écrit un vide immense avec de super beaux textes. C'est super bien écrit, mais elle a livré tout un combat. Elle est décédée le 11 avril dernier, à l'âge de 43 ans, à la maison Michel Sarrazin. Elle avait des filles, elle, en bas âge. Hein,
Rosalie et Sarah Maud.
Et Sarah Maud, donc un petit peu plus de 10 ans, là. Fait que toutes nos condoléances à la famille. Sinon, il y a Luc Gingras, 44 ans. Lui, il est de Neuville. Steve Drouin de Québec, 52 ans. Rémi Boucher, 54 ans de Québec. Lui aussi, tu sais, on a fait certaines recherches, puis on n'a pas trouvé exactement quelles étaient les causes de décès des gens. Carl Baribeau-Giguère, lui, n'avait que 47 ans à Québec. Beaucoup de jeunes cette semaine. Et Martine Leclerc, 61 ans, elle, de Lévis. Alors, à Brigitte Côté aussi de Québec, ça, c'est un cancer, 62 ans seulement. C'est beaucoup trop jeune, fait. Mais nos condoléances à tout le monde de ce côté-là. On souligne les centenaires souvent. Donc, Gilberte Lafleur, 101 ans, c'est une dame de Sainte-Foy. Donc, ça aussi, nos condoléances. Et comme ça arrive, quand même assez fréquemment, j'allais dire, Thérèse Morin, 93 ans, est décédée le 1er avril. Et son époux, 90 ans, est décédé le 13 avril. Ils étaient les deux de Lévis. Avec cet écart de décès, je ne sais pas s'ils étaient ensemble depuis longtemps. Je serais pas surpris de voir un genre de 50 ans de mariage là, dans ce couple-là. Là.
J'ai pas cette information-là, mais ils sont décédés à deux hôpitaux différents.
OK, ils étaient dans deux endroits. Mais souvent, selon... Tu sais, j'ai un ami qui a dû placer ses parents à des places séparées. Tu sais, parce que si t'as des problèmes cognitifs, puis l'autre a des problèmes de santé courante, c'est pas le même service.
Je comprends.
Fait que il arrive un moment donné où c'est
mais tu sais, quand t'as habité pendant 50 ans avec ton mari ou ta femme, là, puis on te sépare, là, mm-hmm. Ça doit être quelque chose là, pour ces gens-là.
C'est quelque chose, absolument. Surtout quand il y a une condition variable, comme je viens de dire. Ça veut dire quelqu'un qui a des problèmes cognitifs. Tu sais, puis quelqu'un me racontait récemment, là, ils se sont rendus au bout du bout, là, tu sais, le problème cognitif. Que ce soit de l'Alzheimer ou autre, là, maintenant, il y a des problèmes connexes. Ça devient quasiment impossible à vivre pour celui qui est encore en celui ou celle qui est encore en pleine forme, mm-hmm. puis qui doit faire la sécurité,
être proche aidant,
de sa propre sécurité et de la sécurité de l'autre personne. J'avais reçu un monsieur en entrevue il y a des années de ça. Sa femme, on commençait à parler un peu d'Alzheimer. J'étais à le midi à choix. C'est pas d'hier. Hein. Puis je n'avais broyé comme un bébé là. Le monsieur tellement solide, puis il nous racontait que il dit, une des étapes les plus difficiles qu'il avait eu à faire, c'était de dire, OK, j'ai un bébé dans la maison, mais qui se déplace, puis qui est fonctionnel, puis qui bouge. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire qui va mettre sa propre sécurité et la sécurité des autres en jeu? Et une des premières affaires qu'il avait dû faire, c'était d'inverser les poignées de la maison. Ça veut dire que lui, là, ça se barrait par en dedans pour pas sortir. Pas l'inverse. Parce que sa femme pouvait pas. Si elle sortait, c'est disparu. Tu sais, c'est pas pour venir. Là. C'est impossible. Ensuite de ça, l'utilisation de tout ce qui avait besoin d'électricité. Tu sais, je me souviens, il racontait, je pense qu'elle avait le toaster était branché. Il y avait des graines, elle a décidé de le laver. C'est un réflexe normal qu'elle avait probablement fait des milliers de fois dans sa vie avant. Elle a pogné le toaster, puis elle l'a mis branché, mais dans l'évier avec de l'eau. Tu sais, ça a sauté, puis il n'y a pas eu d'autres problèmes majeurs, l'incendie n'a pas éclaté, puis elle s'est pas électrocutée, elle l'aurait laissé tomber dans les... En tout cas, peu importe quoi, donc c'est de penser à tout et c'est tout prévoir, mais ça devient une charge très lourde en même temps pour ces gens-là, fait que ça doit être extrêmement difficile. Et le pire, c'est que, tu sais, des fois, je parle à tellement de monde, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, je suis rendu là, faut que je place mes parents, puis ça me rentre pas dans la tête. Fait que, non, mais, je peux pas vous en parler. Moi, je me suis pas rendu là. Je vous trouve des fois quasiment chanceux de vous rendre là. Parce que, quand il meurt à 50 ans, c'est peut-être un peu jeune. Là. Fait que, je comprends la difficulté de faire ça. Puis en même temps, c'est à nous qu'allons vieillir là, d'accepter qu'à un moment donné, mais tu sais, ce sera pas
c'est
toujours...
C'est les étapes de la vie.
Ouais, ouais. C'est ça.
C'est devenu un privilège de vieillir.
Oui, absolument. De vieillir en santé.
Je pensais pas dire ça quand j'étais en deuxième année, là.
Ouais.
Mais finalement, je me rends compte de ça plus.
Oui, puis il faut... tu sais, hier, là, j'ai ri. J'étais avec mon beau-père. Tu sais, il est pas à bout d'âge, là. Il arrive à 70, je pense. Peu importe, je veux pas le vieillir. Puis tu sais, là, lui, c'est un fan du Canadien.
OK.
OK. Puis lui, là, il connaît pas elle tout petit, Alex Desrosiers, qui travaille avec nous autres.
Okay.
À l'occasion. Lui, là, il est à la tête de je sais pas combien de sites Internet de potins de hockey.
Oui.
Ben, mon beau-père, il est abonné à tous ces hosties de sites-là. Puis quoi ça, là? Là, il me dit, hey, t'as pas invité au NOS cet été? J'ai dit, non, j'ai pas invité au NOS. Comment ça, j'ai au NOS de qui, moi? Ben, il dit, il y a trois joueurs du Canadien qui se marient. J'ai dit, tu sais quoi, cette affaire-là? Ouais. Il dit, oui, Suzuki, il se marie. Puis là, ma blonde, sa fille, elle dit, ben non, père. Il est parti dans le sud avec sa... Ils ont mis des photos avec sa femme. Il est allé dans... Non, mais ils l'ont dit. T'as pas... Moi, t'as le retrouvé. Ils l'ont dit qu'il se marie, puis Anderson ou tout, il se marie avant d'être échangé. Comment échangé? Il dit, oui, le Canadien, il échange, là. Anderson, Gallagher, puis un autre, contre...
Malkin, j'imagine?
Dubois.
Ah, Dubois, OK.
Contre fait. Dubois.
OK, c'est bon.
Fait que là... Puis il dit du bois mort pour du bois mort.
Eh hey boy!
Fait que lui, il prend les sites à potins pour Radio-Canada.
Ouais! Puis là, il me les raconte. Puis moi, je vous les raconte.
Rumeurdetransaction.com, je pense, le site.
Ah ouais, c'est ça. Il y en a plein, là. Ouais. Ah, que ça m'a fait rire. Là, je l'agace avec ça. Hein, mais il croit tellement à son équipe. Fait que c'est partisan, c'est ça, d'être partisan, par exemple.
Mais
dans
c'est
les, autant dans les bons temps que dans les mauvais temps.
Ouais, mais je l'envie. Parce que tu me demandais la semaine dernière, moi, mon club préféré, c'était lequel dans la Ligue nationale. Puis je t'expliquais que, moi, c'est des joueurs qui m'ont amené à aimer des équipes.
OK.
Mais finalement, ton beau-père est en avance sur moi, Steph. Parce que lui, au moins, il a un club préféré. Je n'ai pas, moi.
OK. C'est vrai. Je comprends. Ah oh oui, lui, et puis...
La partisanerie, là. Moi, j'ai été partisan, un vrai de vrai, là.
Oui.
De Peter Stachny, comme tu le sais, mais des Nordiques en général, là. Mais ça, ça me manque, t'as pas idée.
Oui, là. Mais t'as pas remarqué que les gens de Québec vont avoir une tendance, là, à, surtout actuellement, de rire des fans du Canadien parce qu'ils sont pratiquement dans les derniers, dans le fond du classement.
Ouais,
mais tu sais, ouais, mais l'année facile, des Nordiques, là, qui ont
31 points,
un record de médiocrité, et, ouais. On prenait pour eux autres pareil à
exact,
chaque game. Puis aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre cette année, là, ça va coûter encore les yeux de la tête. Ils vont être pourris en sacrement.
Oui.
Puis il va y avoir du monde pareil. Puis ils vont avoir les chandails pareils. Puis le monde, c'est ça d'être être partisan d'une équipe, c'est autant dans les beaux jours que dans les mauvais jours.
Exactement. J'ai un membre au club qui s'appelle Mario Bédard, mais c'est pas le Mario Bédard de J'ai ma place, c'est un autre monsieur. Okay. Il est super fin, puis à chaque fois je le vois...
Parce que l'autre, il est pas fin, c'est ça?
Pour non. Et l'autre, il est très gentil aussi, mais je veux dire, j'aime ça,
parler
avec mon membre qui tripe sur le Canadien, parce que c'est imp... Puis là, je l'agace tout le temps, je dis, papy, finalement, t'as-tu changé d'équipe? T'as-tu pris une décision? Là? Tu vas prendre pour qui l'année prochaine, tu sais? Puis là, il se fâche pas parce qu'il sait que je le niaise, mais c'est impossible qu'il change d'équipe. C'est ça la beauté de la partisanerie.
C'est clair. Tu sais, comme Tristan, hier soir, il dit à son grand-père, il dit, hey, garde ça dans mon téléphone, il dit, j'ai une photo avec Maxime Talbot. Fait que là, il dit, mon ça, puis là, je parle, il dit, OK, mais dis-moi, j'ai une photo avec Guy Lafleur. Fait que, mais dis-moi, je l'ai pas dans mon téléphone, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone de même, là, mais j'ai une photo de Guy Lafleur. Tristan, il dit, tu l'as pas avec toi? Il dit, non, hey, je l'ai quelque part, là. c'est deux mondes, là, qui s'affrontent, là. C'est ça. Puis j'ai trouvé ça drôle parce que, ces gars-là, hier, je les réalisais encore plus. Puis, tu sais, je sais que Bob Bissonnette faisait la même affaire. Des fois, je fais un peu pareil, mais moi, ça m'arrive beaucoup moins souvent. Mais mettons, tu sais, à ce temps des autographes, on demande plus ça, là. C'est complètement dépassé, là. C'est vraiment des selfies. Tu sais, c'est de même des fois, on va approcher des gens connus ou des gens qu'on trouve bien hot. Fait que là, Tristan, il demande à Max Talbot, on est chez nous dans la maison, là, c'est pas gênant, là. Il dit, on peut-tu prendre une photo? Fait que, puis là, Max, il s'installe à côté, puis il fait un thumbs up, puis il fait toujours la même face, puis la même position, ses photos. J'ai dit, hein, j'en ai une photo de Max dans les premières années de Gagné Bergeron. La classique.
Okay, le Pro-Am.
Le Pro-Am Gagné Bergeron.
Identique.
Pareil. Et hey, puis Nathan, Tristan, il a 12, là. Nathan, il devait avoir 8 ou 10 ans maximum. Okay. Il est plus jeune encore. Fait que ça fait au-dessus de 15 ans. Puis Max, il était encore joueur quand il était là. Fait que, moi, j'étais coach honoraire d'une des deux équipes. C'est pour ça que mes enfants étaient dans la chambre. Puis mon autre fils, lui, s'était assis à côté de Patrice Bergeron. Puis il a pas dit un mot, il a pas parlé, il a pas bougé. Il a fait juste le regarder. Tout l'avant-match, les warm-up. Après ça, il est revenu dans la chambre. Il s'est resté à côté. Il faisait rien que regarder.
Il était impressionné, mais gêné.
Oui, puis Patrice Bergeron, ben, même si c'était une game pour le fun, moi, c'est ce qui m'avait frappé. Il était dans sa bulle, comme si on jouait pour la Coupe Stanley.
Ah, ouais.
Pas dans son intensité, puis commençait à cross-checker le monde d'en face, là, mais... parle pas beaucoup, concentré, puis...
Il s'est pas dit, mettons, ah, c'est pour une œuvre de charité, je vais faire le clown dans la chambre aujourd'hui.
Ah, c'est ça. Puis moi, mettre qu'un tour de tape au lieu de deux tours, mettre tout le temps deux tours de tape à première passe. Non, c'est... Ça se fait de même, c'est de même. Fait que j'avais été assez impressionné. Fait que c'était drôle de voir les écarts comme ça, entre les générations, et c'est toujours très drôle de comparer ça. Mais en même temps, là, ce qu'on vous disait, c'est à propos des gens qui auront, des fois, à placer leurs parents ou à prendre des décisions. Ça doit être extrêmement difficile pour eux, mais quand même, c'est le courant de la vie qui fait son œuvre. OK, pour ça, on s'en va tout de suite en barque, on n'ira pas vite. Voici donc les principales nouvelles du jour.
Oui, la vie qui se dessine pas de la même façon pour tout le monde, effectivement. On a retrouvé le corps de Jesse Duchesneau. C'est clairement la nouvelle qui a fait le plus jaser à Québec dans les 24 dernières heures, là. Donc, on a retrouvé son corps la fin de semaine dernière. Il était porté disparu depuis le 4 novembre dernier. Son corps a été retrouvé aux abords du fleuve Saint-Laurent, à la hauteur de Saint-Michel de Bellechasse, donc ce samedi. Les événements sont encore un peu inconnus. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il avait passé une soirée dans un bar, qu'on avait retrouvé certains de ses effets personnels sur une route qu'il aurait suivie. Mais à un moment donné, on a perdu sa trace et on savait pas ce qui était survenu. Pour l'instant, on n'est pas sur une thèse de cause criminelle ou quoi que ce soit. Il y aura une enquête, une autopsie dans ce dossier-là.
Je sais pas que ça va donner, par exemple. Moi, je pense qu'on n'apprendra rien de plus que ce qu'on sait déjà. Donc, ce qui veut dire que on saura pas si c'est un geste volontaire. La police a tassé le geste criminel. Je suis d'accord. Je veux pas être d'accord ou pas, c'est encore. Mais en même temps, est-ce un accident ou pas? Sa famille dit il voulait c'était pas dans son aptitude, c'était pas dans son habitude, il était pas dépressif. C'était pas un grand consommateur ni de drogue ni d'alcool de ce que eux disent. Clairement il était intoxiqué le soir des événements parce qu'on le voit sortir du bar puis prendre le côté opposé à la gang d'amis avec qui il est ou de gens qu'il connaissait. Fait que puis ils prennent des chemins séparés. Je dis qu'on en apprendra pas davantage, mais je m'y connais pas. Tu sais par exemple, des fois, on va repêcher quelqu'un qui s'est noyé. S'est noyé hier. On repêche quelqu'un, il s'est noyé hier, là. Mais là, s'il n'y a pas d'eau dans les poumons, ben, ça veut dire qu'il était mort avant de se noyer. Tu sais, parce que là, il est tombé dans l'eau, puis il n'y a pas eu le temps, son corps s'est pas rempli d'eau.
Mais là, en
parce qu'il respirait
mois,
plus.
Ouais.
Ouais, mais là, en quelques mois, je peux pas croire, là.
C'est ça.
Tu sais, je comprends qu'il doit y avoir. On est tellement évolué technologiquement, mais je vais prendre un autre chose. Mettons qu'il était tellement confus, pas parce qu'il avait surconsommé, mais parce qu'on avait, on a parlé là des problèmes dans le sud là du monde qui se font intoxiquer à leur insu. Si mettons ça lui est arrivé, puis on le sait que ça arrive dans les bars de Québec, qu'il y a des gens qui se font involontairement intoxiquer avec des produits X. Si ça lui est arrivé, mettons là, ben encore là de novembre à aujourd'hui. Je peux pas croire qu'on va être capable dans les tissus du corps qu'on a repêché
de trouver des traces, par exemple.
C'est ça, tu sais. Malgré que s'il est mort, s'il y a pas d'évolution des produits ou d'élimination des produits, mais là d'avoir passé tout ce temps-là dans l'eau l'hiver au grand complet, je suis moins certain. Fait que j'ai bien hâte de voir. Et c'est j'aime pas ça, pas avoir de réponse. Mais des fois, faut accepter qu'on n'en aura jamais. Hey, parce que là, ça fait deux corps qu'on retrouve dans le fleuve, là, subséquemment, là. Une femme sur la rive sud, là, à la baie Gingras, si je me trompe pas. Ouais.
Ou,
Lance à Gingras, je connaissais même pas ça. À Saint-Romuald, une jeune femme dans la quarantaine, je pense, que l'on a retrouvée dans l'eau. Elle aussi, on comprend pas. Était allée courir la nuit, mais elle était équipée d'une lampe frontale puis des crampons.
Ça, c'est un petit peu plus récent. C'est dans les dernières semaines, c'est ça? Hein?
Oui, puis elle, on l'a retrouvée, on l'a repêchée rapidement. Ouais. Elle est tombée ou elle est sautée.
Ouais, à quelques jours d'intervalle. Ouais.
Mais on le saura jamais. C'est ça, la patente. Puis c'est la même affaire pour la famille du Chêneau en Gaspésie. Ouais. Probablement que le vrai fond de l'histoire. Mais en même temps, peut-être que leur deuil va être plus simple.
Trouver le corps, déjà, c'est une grosse partie du processus de deuil, ben oui.
Tu sais, puis de ce que je comprends, on pourrait expliquer ça en disant, parce que son cellulaire a été retrouvé dans un... Le fil vite des événements, là, il sort du bar, on a les images de ça. Il sort du bar, il part du mauvais côté. Il part pas avec les 3 ou 4 autres gars qui partent eux autres vers l'ouest, lui il part vers l'est. On le voit après ça un petit peu plus tard, rentrer dans un stationnement souterrain. On voit pas dans le stationnement, on le voit juste entrer, passer à côté de la barrière. Bon, on présume qu'il s'est endormi à cet endroit-là, ou en tout cas, parce qu'il est ressorti une heure plus tard.
Donc, il a au moins pris une pause.
Il a pris une pause de quelque chose. Fait qu'il ressort à 4h40 du stationnement, et là, il s'en va vers la rue du Pont, au coin du Pont, et je me souviens pas le nom de l'autre rue.
Prince-Édouard.
Puis, c'est la dernière fois qu'on le voit. Bon, son cellulaire est retrouvé, je pense, dans le stationnement. Sa casquette aux abords de la rivière Saint-Charles, où il y a des murets de béton pour retenir le rivage.
Ça, c'est un passant qu'il avait trouvé quelques jours auparavant. Pensait pas que ça avait un lien avec l'histoire. Puis d'ailleurs, la casquette, on l'avait remise rapidement à la famille en disant, ben, on pourra pas vraiment avancer l'enquête avec cet élément-là.
C'est ça. Mais ça nous donnait quand même un point où il était allé aux abords de la rivière.
Ouais.
Puis s'il est tombé en bas, il y a des murets de ciment dans ce béton-là. Puis il faisait probablement encore noir à 4h40, 5h du matin. Ça commence un petit peu à faire clair à cette, novembre, il fait noir. Ouais. Fait que, peut-être qu'il n'a pas trouvé d'endroit où sortir de l'eau, puis il s'est finalement noyé. Je ne sais pas.
Ouais.
Je sais pas, mais je pense qu'on le saura jamais. Mais au moins, oui, la famille le disait hier, ils ont retrouvé le corps, et là, maintenant, ils pourront faire leur deuil graduellement.
3 personnes qui ont été arrêtées, plusieurs perquisitions également du côté de la ville de Québec hier. Nicolas Pouliot, 34 ans, lui faisait l'objet d'un mandat d'arrestation. Donc, c'est pour ça qu'on a son identité déjà. Il a été libéré quand même en attendant la suite des procédures. 2 autres personnes, un homme de 44 et un autre de 54 ans qui ont été libérés, vont revenir devant le tribunal. Mais on a trouvé quand même pas mal de dope, là. Du crystal meth, de la cocaïne, du GHB, plus de 2000 comprimés de méthamphétamine, des cellulaires, 5 800 $ en argent canadien. Donc, tout ça...
Non, mon week-end qui fout le camp.
Ouais, c'est ça.
Comment ça? Tous tes dealers, c'est ça? Ouais. Ouais.
Mais au moins, c'était juste l'argent canadien, Nico, ça vaut pas mal.
Non, moins. C'était plus la drogue, non?
Ah ouais, c'est ça, hein, c'était pour...
Okay. T'auras moins de fun, ouais. C'est tout.
Ça va pas tomber ailleurs.
Ça a brassé ici, dans la région de Québec, dans les derniers mois, avec le crime organisé, la vente de stupéfiants, etc., etc. Ça brasse aussi dans l'est de la province.
Ah oui?
À Sept-Îles. Puis j'ai quelques arrestations dans les derniers jours que j'ai relatées dans les diverses émissions ici au 93. Mais là, ce matin, ce que j'ai à te partager, Steph, c'est un couple de personnes âgées qui a vu sa maison être criblée de balles par erreur. Mauvaise adresse. Et on relie directement, la Sûreté du Québec le confirme que c'est une tentative d'intimidation ratée directement liée au conflit entre l'organisation de Dave Turmel et les Hells Angels. Tout ça, ça fait... imagine.
Oui, c'est que les gars se cachent à différents endroits. Puis on le sait qu'il y en a beaucoup qui ont pris le chemin de la Côte-Nord.
Ouais.
Fait que, parce que souvenez-vous, là, la tentative de meurtre, je vous l'ai dit. Là,
4 gars de Lévis, là, 3 contre 1, mais c'est là-bas.
Ça.
Hein, c'est
la
ça.
Victime, un gars de Lévis, contre 3 gars de Lévis. Un relié au motard, puis l'autre relié au gang du BMF. Fait que... je dis BMF tout le temps.
C'est BFM.
BFM. Fait que... FM 93.
C'est ça,
BFM 93.
Ouais, mais non, on n'est pas reliés à eux autres.
On n'est pas reliés?
Non.
On n'est pas subventionnés?
Non.
En tout cas, on est-tu intimidés?
Non plus.
Fiouf.
Pourquoi, Steph, selon toi, la Côte-Nord?
D'après moi, ils louent des chalets ou ils louent des maisons, puis ils essayent de laisser le moins de traces possible. Fait que ils s'en vont comme ça dans le Nord.
Mais il y a beaucoup de drogue aussi sur la Côte-Nord.
Ouais, il y a beaucoup de drogue aussi, ouais, effectivement. Mais en même temps, ils vont plus se cacher. Là. C'est vraiment là des gens qui veulent protéger leur famille ici, puis qui s'en vont dans le bois le plus loin possible du monde. On dirait que ça leur donne un sentiment. Hey, c'était comme ça il y a 30 ans. Je me souviens, un des criminels les plus recherchés au Québec, c'était évadé de prison, puis il avait commis des meurtres à Montréal, puis il était allé se réfugier dans le Grand Nord des Laurentides, ben à l'écart du monde, là, pas d'Internet dans le temps.
Okay.
Fait que, là, cette île, c'est peut-être pas rien qu'un hasard non plus, là. Mais
ça semble que je serais pas parti de ce bord-là.
Ouais, je parti.
Il y a peut-être plus de pas fin de l'autre bord.
Ouais,
il y a
dit,
okay, ouais.
Karen, t'as raison, c'est la coke nord.
Oui. je voulais pas le dire, mais.
C'est la première fois que je l'entends, moi, je le trouve drôle. La coke nord.
Mais c'est surtout bien. Aussi, c'est des marchés qui sont un peu enclavés. Fait que quand t'as un marché comme l'Abitibi ou comme la Côte-Nord, t'as tout ce marché-là aussi, hein.
Mais tu sais, j'étais allé à Matane un hiver, jouer un tournoi de hockey.
Okay.
Avec des boys, là, une gang de boys. On part en minibus. On a un chauffeur privé. On a une chaudière pour pisser dedans durant le trajet. Okay. On a tout ce qu'il faut.
Tout ce qu'il faut.
Fait que, on part. On s'en va jouer au hockey à Matane. On est parti le jeudi, je pense.
Ça a commencé le samedi après-midi?
Oui. Dans tout le tournoi, on scorait un but.
Hein?
C'est moi qui l'ai scoré, puis je m'en souvenais même pas aperçu. Fait que, tout ça pour dire, j'avais été frappé de la consommation de cocaïne dans un... Tu sais, parce que Matane, c'est quand même pas une métropole. C'est pas gros, mais c'est quand même la ville des alentours.
Ouais.
Et, tu sais, on allait dans différents bars, là, on a fait le tour, évidemment, et ça se fait de la coke au comptoir partout. Je te dis, j'étais sur le cul.
Ah, voyons.
J'étais sur le cul, je te dis. Ben, là, le gars, il laissait ça là, ça traînait sur le comptoir, puis j'ai dit, voyons.
Comptoir de quoi?
On est allé dans des bars, sur le bar, dans un bar, là. Il y a des aux danseuses, on est allé un peu dans tout. Puis c'était... J'en venais pas, puis j'avais un chum, moi, qui restait à ma table. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, c'est? Il dit, c'est épouvantable, c'est un fléau épouvantable.
Ah ouais.
Il dit il y a peut-être le maire de la ville qu'on peut enlever de la gang, mais les autres ça sniffe tout de haut en bas.
Bon, au moins le maire est correct.
On nous signale que le port de cette île, c'est une belle place pour rentrer de la drogue.
Aussi, c'est pas fou ça.
Oui,
c'est pas fou.
Pensez au nombre de patrouilles de la Sûreté du Québec qu'il y a dans un milieu comme celui-là. La réponse c'est je sais pas combien, mais c'est pas beaucoup.
Non,
c'est par rapport à ici où est-ce que tu as possibilité que le SPVQ débarque n'importe quand.
T'sais. Exact. Mais là avec cette guerre là, peut-être qu'on va être un peu plus attentif là à ce qui se passe sur la coke. Non.
Parce mais que c'est là que tu vois qu'on sait, on tolère des choses parce que c'est plus simple comme ça.
Oui.
Parce que si tout le monde le sait, que tout le monde siffle de côte là-bas puis que ça rentre par le port de cette île, tu mets un poste policier là pendant 6 mois, 1 an, puis ça va être fini. Là.
Je sais.
Mais on fait pas ça.
Non, on fait pas ça. Puis, tu sais, même à petite échelle, le petit trafic de cocaïne.
Ouais.
J'étais allé une fois dans un bar dans la région ici. Moi, c'était dans la ville de Québec, mais j'avais appelé la police à Québec. Je vais dans un bar parce que je vais attendre quelqu'un Faut changer de char. Fait que j'étais jamais allé là. C'est la première fois, c'est la seule fois d'ailleurs que j'étais allé là de ma vie. Fait que je rentre là. Salut. Je me colle un verre. Et là, je vois le gars aller à côté. Là, il rentre quelqu'un. Tu sais, là, puis on voit rien, ils ont des caves, hein. Tu sais, ils se tendent la main. Ils se donnent la main juste le bout des doigts en dessous du comptoir, là.
Ouais.
Tu sais, ils donnent une coupe de vin roulé, là. Puis là, l'autre, il donne un... Je vois pas. Je l'ai pas. Honnêtement, je vois être bien honnête, j'ai pas vu le chassé en question. Fait que... Puis là, ça se dit, que s'en va. Il prend même pas rien. Le gars vient virer au bord, il prend rien. Bizarre. Fait que... 5 minutes après, il en rentre un autre. Fait la même affaire. Rentre, c'est tout. Bon. Après ça, le gars, il répond au téléphone. Il dit, oh, ouais, mais là, faut que je parte, j'ai une commission, mais ça va être tout ce que c'est d'habitude.
Hey.
Et là, je le vois faire. Il y a des bancs de bord en cuirette, là, et ils sont maganés. On comprend, là, t'as pas au Château Frontenac tout à fait, là. Hein? OK? C'était assez magané.
Okay.
Et il y a une fente dans le banc sur le côté. Puis là, je vois bien le gars glisser ses doigts, puis taponner dans la fente du banc, puis ramasser ses affaires, puis il s'en va.
Fait que la même place que d'habitude, c'est la fente du banc?
Ben oui.
Okay.
Là, le gars rentre. Honnêtement, ça a peut-être pris une demi-heure. Le gars rentre. Il s'assoit là.
T'as vu l'autre arriver?
Ben oui.
Wow.
Il est dans le crack. Il ramasse ses affaires.
Enquêteur Dupont.
Non. Là, je sors de là. J'appelle la police de Québec. J'ai dit là. C'est parce que là, c'est. Il y a des sachets sur le comptoir. Tu sais, j'ai dit. Il me semble qu'on est en ville, là. On pourrait peut-être.
Ah, c'est parce que l'étape d'après, c'est le gun dans le bar, là, tu
sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai jamais su ce que ça a fait. Ils m'ont jamais rappelé me dire pourriez-vous venir témoigner, on les a arrêtés.
Ouais.
Et ils m'ont pas rappelé.
OK.
Et pourtant, j'avais laissé mon numéro.
Je termine avec 2 incendies du côté du Sibéria Spa près de Lac-Beauport et c'est pas 2 hier en après-midi, donc un premier dans le sous-sol d'un bâtiment vacant, l'autre dans ce qu'on dit être une petite installation éloignée. L'affaire, c'est qu'il y a eu des appels pour des incendies au Sibéria Spa en novembre 2023 et en octobre 2023 également. J'ai rien à ajouter là-dessus. Là, j'ai pas d'infos supplémentaires à cause. Mm-hmm. C'est simplement qu'il y a une addition. Là, on est rendu à 4 en quelques mois.
Oui, mais il y a tellement de demandes énergétiques, demandes d'électricité.
Ça peut être, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je fais aucun lien. Là, ça peut être juste des troubles électriques, tout simplement. Puis
le SPVQ a été demandé, là.
Oui, c'est évidemment, mais c'est, je veux dire, 4 fois en quelques mois, évidemment, qu'ils vont poser quelques questions ici et là. J'aurais été surpris du contraire.
Exact.
Ouais.
OK, maintenant, de notre côté, tout le monde a choisi une nouvelle et on va la partager avec nos auditeurs. Nicolas, je commence avec toi ce matin.
Écoute, faut mentionner, mais là, vu qu'on en a parlé plus tôt puis que tu vas en reparler tantôt, j'avais quand même choisi comme nouvelle la sortie de l'album posthume pour Carl Tremblay des mm-hmm. Cowboys fringants. C'est pas... un style musical qui vient me chercher du tout. Moi, tout ce qui est folklorique, je m'en fous. J'ai mis les fans de Céline en maudit hier. Je vais mettre les fans des Cowboys fringants en maudit aujourd'hui. Donc, ça me touche pas. Mais j'ai compris l'année dernière, avec le festival d'été, oui, et l'urgence de replacer le spectacle mm-hmm. absolument dans cette édition-là. Et la vague d'amour des Québécois, ce qui représentait pour les gens. Puis je trouve ça toujours touchant quand un artiste a la chance d'enregistrer un album en sachant que c'est son dernier album. David Bowie avait réussi à le faire, entre autres avec son dernier album. Il savait qu'il était condamné. Puis ça donne toujours... Ça rajoute quelques coches d'émotivité et d'émotion et d'importance à l'œuvre qui sort. Fait que je suis très content pour les fans des Cowboys fringants ce matin.
Et la pièce qu'on va écouter dans une demi-heure ou à peu près, là, c'est quand même impressionnant l'écriture de celle-ci.
Ouais.
C'est pas Carl Tremblay qui l'a écrit, on dit que c'est Jean-François Posé davantage, mais ça relate son dernier parcours. La fin du show et le titre, c'est les paroles, je l'ai écouté au complet ce matin,
mm-hmm.
Les paroles m'ont impressionné. Et moi non plus, je suis pas un grand fan, mais j'ai envie d'aborder des fois dans le même sens que Dan. J'ai découvert sur le tard, sur le très tard dans mon cas aussi, mais je peux pas dire que je déteste ça.
Mm-hmm.
Fait que et j'imagine que, comme quand Bob Bissonnette est mort, combien de monde, tu sais, entre autres, Bob rêvait de percer à Montréal. Il savait que c'était extrêmement difficile. Puis c'est pour ça qu'il avait écrit J'haïs Montréal. Mais après sa mort, ça a créé une vague.
Ça a donné un coup.
Ben oui, oui, ça a donné un méchant coup, là. Puis du monde qui l'avait jamais entendu ou écouté, mm-hmm. qui ont entendu ça de par des fois leurs enfants, de par le documentaire que Brun a fait, de par donc différentes plateformes. Fait que c'est quand même cool que ces artistes-là soient reconnus, même si c'est leur décès qui a fait que des gens les ont découverts.
Sachez que ça s'appelle le Pub Royal. Même chose que la comédie musicale, parce qu'il y a une grande part des pièces qui viennent directement de la okay. comédie musicale. Il n'avait pas été enregistré encore ces pièces-là, de ce que je comprends. Et il y a 4 chansons inédites aussi que personne n'avait jamais entendues avant et qui ont été enregistrées dans les mois précédant le décès de Carl Tremblay. Donc, ça, c'était pour la petite nouvelle qui a pas nécessairement de besoin de discussion. Celle-ci, peut-être, ça va faire discuter, surtout que toi, t'es au
c'était
centre.
Nico, que c'était une par personne. Ah, oh, excuse-moi.
Non, je sais pas.
Souvent, je fais deux, moi.
Je sais, parce qu'on te l'a dit, je passe tous les jours cette
j'en
semaine.
J'en donne plus que le monde en demande.
Très bon, ça.
Ouais. Les amateurs de voitures bruyantes et modifiées.
Oui.
Ont des traits de psychopathie et
des petits pénis.
De sadisme plus élevé que les non-fans de voitures bruyantes. C'est une universitaire de Québec canadienne, Julie Aitken-Shermer, qui trouvait ça bruyant dans son secteur parce qu'à Toronto, il y a un problème de course de rue et de rassemblement de voitures modifiées. Puis, elle se demandait qu'est-ce qui faisait triper des gens là-dedans. Fait qu'elle a cherché, puis elle n'a pas trouvé d'études là-dessus.
Fait qu'elle en a fait une.
elle a utilisé 289 hommes, 234 femmes et 6 personnes qui se décrivaient comme autres en leur demandant s'ils aimaient les voitures ordinaires, s'ils considéraient que leur voiture, c'était une extension d'eux-mêmes, s'ils avaient l'intention de faire modifier leur voiture ou s'ils l'avaient déjà fait. Et après ça, elle leur faisait passer un test de personnalité qui dénote si les gens ont des traits de narcissisme, de psychopathie, de sadisme et autres. OK? Elle s'attendait à ce qu'il y ait un lien fort avec le narcissisme. C'est pas le cas.
Okay.
Mais il y a un lien direct entre le fait de triper sur des chars qui font beaucoup de bruit, puis la psychopathie et le sadisme. Donc, tu prends plaisir à ce que les autres fassent le saut. Ce que qu'on trouve ça déplaisant, là, ça nourrit le plaisir que ces gens-là ont. Pas tous, évidemment, mais on fait une moyenne que ces gens-là ont à faire du bruit avec leur voiture.
OK. Moi, je trouve ça particulier. Pis,
qu'est-ce que tu trouves particulier?
Bon, j'aurais suggéré d'étudier d'autres choses. Parce que c'est tellement vague. C'est des fois, là aussi, c'est d'avoir une voiture. Moi, je fais pas modifier les silencieux. D'ailleurs, j'ai eu longuement la réflexion. Vous savez que les silencieux de moto, tu sais, les motos, là, il y a des règles quand même, et des règles qu'ici, dans la région de Québec, contrairement à ailleurs, partout ailleurs en Amérique, sont pas nécessairement appliquées. OK? Et ma réflexion pour les motos, je restais avec les motos, c'est de faire sentir sa présence. C'est quelqu'un qui a une moto qui gronde beaucoup va faire sentir sa présence, et je pense que, entre autres sur les autoroutes,
la sécurité,
ça peut diminuer le risque d'accident de façon considérable.
Okay.
Fait que ça, il y a quand même un lobby de ce côté-là où les motocyclistes disent, si on n'est pas entendu, ben, on n'est pas vu, parce que on est difficile à voir étant plus petit. Le son pourrait nous aider. Je suis totalement d'accord. Je suis le premier. J'ai toujours été dans la légalité, mais j'avais fait modifier un peu mes mufflers. Puis maintenant, des fois, sur l'autoroute, je vois que quelqu'un veut se tasser, puis il m'a pas vu, là. Je donne un coup de gaz, plutôt qu'un coup de criard. Fait que là, oups, des fois, ça attire juste l'attention. Fait que ça, c'est une chose. Pour ce qui est maintenant des voitures modifiées, je me demandais si ça découlait pas aussi du fait que quand ils s'achètent des mobilettes, tu sais, il y a rien de plus brûlant qu'un scooter. Tu sais, les petits scooters, là, ça passe.
Là.
Ouais, c'est une tondeuse fois 1000.
Même de Weed Eater.
C'est ça, un tournoi de Weed Eater, oui. Fait que voilà pourquoi, des fois, je trouve que ça peut être... Mais je comprends de l'étude qu'elle a faite, mais en même temps, je sais pas, j'ai... Toi, t'es voix sadomasochiste, là?
C'est pas moi qui les vois, c'est l'étude.
OK, donc c'est vrai. Mais c'était rien que des Ontariens.
C'était probablement rien des Ontariens. Ouais. C'est pas de même au Québec.
Ah non.
Elle
non,
cherchait
non,
à dégager non, des non. caractéristiques de groupe. C'est
ouais,
ça qu'elle a fait avec
c'est
son...
Ça, c'est ça. Mais qu'elle a trouvé probablement en sondant le groupe. Tu sais, oui. Je veux dire, pour savoir qu'un gars qui a un char qui fait du bruit,
oui.
Il faut qu'il pose la question.
Donc, à autodéclaration.
Oui. Puis, elle dit, elle s'attendait à ce que ce soit des gens narcissiques. Puis, elle a pas, ça n'a pas été ça.
Non.
Mais ma prétention à moi, c'est qu'ils n'ont pas répondu ça dans le questionnaire. Ils ne savaient pas c'était quoi, narcissique. Fait qu'ils ont dit, non, je ne suis pas narcissique. Je sais pas, je viens pas de Saint-Narcisse. Tu sais? Fait que je peux pas être narcissique, je suis pas de Saint-Narcisse. Fait que, tu comprends?
C'est pas que c'est pas fou, mais c'est pas complètement fou ce que tu viens de dire.
C'est ça, c'est pas
selon moi, ça a peut-être pas été posé directement comme ça, hein?
Ah. Ouais, c'est ça.
C'est peut-être un questionnaire, genre, si t'étais un chat, Stéphane, de quelle couleur serais-tu?
Moi, ça?
Oui.
Mmh.
Tu sais, ce genre de questionnaire-là, là.
Dégoût?
Si. Est-ce que t'aurais le poil long ou le poil court?
Remusqué. OK, Dan, ta nouvelle?
Ben, moi, c'est une nouvelle plate un peu. Là. Tu sais, je m'amuse à chaque jour que tu dis en bas qu'on ira pas vite à essayer de sortir une nouvelle qui est pas une nouvelle de sport. Puis j'ai juste été interpellé par le sondage pour financer le pont de l'île d'Orléans avec un poste à péage.
Oui.
OK? Puis là, il y a un spécialiste qui a dit, là, ça marche pas, là, c'est 2,7 milliards. Si on charge, il y a juste 12 000 autos qui passent là chaque jour, on n'arrivera pas. Et le but, c'est pas de le payer au complet en 3 semaines, premièrement. Mais moi, je suis pour ça. Et moi, quand je vais aux États-Unis, j'adore rouler aux États-Unis. Puis j'étais allé à Myrtle Beach au début du mois de mars, je t'en ai parlé la semaine dernière.
Oui.
Puis là, j'ai eu mon compte, là, parce que c'était toll by plate.
Ouais.
Fait que c'est rentré dans les derniers jours.
Combien?
Mais je dois 21,94.
Ah oui, c'est pas cher.
Tu comprends-tu que...
T'as évité bien du payage, parce que là, à New York, ça peut coûter 40, là, par la 87.
OK.
À peu près.
Mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis à chaque fois que je paye aux États-Unis, je me dis... Crime, ça va les aider, les routes vont être belles, puis c'est vrai que les routes sont belles.
Oui.
Ah, mais là, Dan, tu comprends pas, ils ont pas le même climat que nous. À Boston, là, peut annoncer qu'ils n'ont des journées pas froides, frettes pendant l'année, puis les routes sont belles parce qu'on paye une pièce ou deux une fois de temps en temps. Moi, j'aurais aucun problème à payer pour aller à l'île d'Orléans. Par contre, faudrait que les résidents, Steph, aient une vignette comme ceux qui habitent pas loin de la rue Cartier.
Je comprends.
Eux autres, ils habitent là.
OK, c'est ça ta solution, parce que, juste pour revenir sur les États-Unis, quand il y a des ponts et des routes à péage, c'est que généralement, il y a toujours une alternative gratuite. Oui. C'est un peu une règle d'or, oui. Puis c'est la même affaire. Puis moi, je l'ai toujours dit, si on construisait un jour un troisième lien pour la rive sud, tout comme j'ai vu à Détroit, le tunnel à Détroit est gratis. Le pont Ambassador était payant, puis le nouveau pont Gordie-Howe va être payant. Mais il y a un lien gratis. Faut toujours qu'il y ait, et c'est pas une loi, mais de façon générale, il y a toujours un accès. Tu sais, vous allez me dire, ouais, à New York, non, à New York, tu peux rentrer par la tête de la ville sans payer. C'est très, 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 très simple, mais faut arriver par la 95. Mais il y a possibilité de rentrer à New York gratuitement. Donc, mais si tu prends les autres tunnels, les accès qu'on a rajoutés, ben là, hey, le Harlem Tunnel à New York. Ça, c'est le dernier tunnel pour traverser de Manhattan au New Jersey. Quand je dis le dernier, c'est lui qui est le plus au sud,
okay.
Le Harlem Tunnel. C'est 14 piastres par shot. Fait que c'est du stock, là.
Oui.
Puis c'est 14 piastres pour entrer ou pour sortir. Rien que dans un des deux sens.
Mais il lave ton char quand tu passes?
Non. Hey, puis là, quand tu passes en bicycle, tu dis, ah, bicycle, ça va être au moins à moitié prix.
Hein?
Non, et 14 piastres. Paye mon chaudron. Fait que... Mais là, quand je suis en moto, je mets ma main sur la plaque en arrière, puis je chauffe de l'autre main.
J'ai toujours pensé à un dispositif. Tu sais, tu pèses un piton là qui descend devant ta plaque, puis quand t'as fini le photoradar ou le payage, là, tu le remontes.
Ouais, c'est ça.
Alors, juste un petit bouton.
C'est crosseur.
Un peu.
Fait que.
Mais tu sais, les commerçants.
À Lille, c'est qu'il faut absolument que les gens de Lille payent pas.
C'est correct, c'est des résidents. On va leur donner une vignette. Sauf que les commerçants de Lille, si on charge pour embarquer sur le pont, ils vont être sur le nerf parce qu'ils vont dire, hey, on va perdre la business.
Eh oui.
Mais moi, je vois 3-4 fois par année, là. Mais moi, ça, une et 75. C'est sûr, si tu me mets ça à 11 piastres, je vais y penser, là. Mais si tu me mets ça à 1 et 75, ou à 2,25, je vais me dire, en prenant le pont, c'est-tu quoi? Je vais me dire, Colin, ça me fait d'autant plus plaisir, un, d'amoindrir la facture de 2,7 milliards, mais aussi, d'encourager les commerçants de l'île.
Ah, mais tu payes déjà le 2,7 milliards dans tes impôts.
Ouais, ton fardeau fiscal augmente si tu acceptes ça.
Je comprends, mais là. Mais si plus on va appliquer l'utilisateur payeur, plus facilement, on va diminuer les coûts. Tu sais, je vous disais que, je reviens sur mon exemple de Détroit, la famille qui a construit l'Ambassador Bridge sont devenus milliardaires avec le pont, tellement ils ont fait de l'argent. Et je suis assez convaincu que c'est le gouvernement fédéral canadien au complet qui paye le pont Gordiard, qui vont être capables c'est 6 milliards la facture, ça devrait être autour de ça final, mais c'est pas juste le pont. En passant, j'entendais mes collègues des autres émissions citer ce pont-là. 6 milliards, c'est le pont, 6 voies et les centres de douane, et qui sont immenses. Là. Ça, c'est les approches du pont sont épouvantablement grosses. Alors, ils vont le rembourser quand même assez vite parce que ça va être des montants. Il y a du trafic, les camions remorquent. C'est 90$, je pense, par camion du passage. Fait que comptez ça vite là. Ils vont accumuler du cash, puis ça va durer plus que 3 ans. Là. Fait que.
Mais pourquoi tu dis que la famille qui a construit l'autre pont d'avant sont devenus milliardaires? C'était pas le gouvernement qui avait fait le pont?
Non, c'est une famille de Troquin. C'était Je dis tout, c'est Hamilton Washington Trucking. Okay. Une compagnie de trucking. Puis le gars, il avait du cash. On est en 1900. Donc, l'idée germe en 1920.
Okay.
Ils construisent le pont en 1930. Ils l'ouvrent en 1930. Et d'ailleurs, ils poursuivent le gouvernement canadien parce que les survivants de la famille, là, ils poursuivent le gouvernement canadien parce que ça va venir tuer leur industrie. Parce qu'il y a personne qui va prendre l'Ambassador Bridge. Parce que, ben, personne, il y a encore du monde, là, mais t'sais, l'efficacité de l'autre va grandement nuire à l'autre pont qui est toujours très occupé. Là.
C'est un pont à péage, Ambassadeur?
Non, lui, Ambassadeur, oui. Okay. Ben oui, et on fait de l'argent que ça. Oui, c'est le ça. Tunnel qui est gratuit.
OK, je comprends.
Qui a appartenu à l'État.
Je comprends.
Fait que c'est différent. Good, Nan, merci. Un débat qui, encore une fois, va faire couler beaucoup d'encre. Mais là, à date, c'est pas ce qui est prévu.
Non, encore, non. C'est pas parti pour ça, on va dire ça.
Non, c'est ça, c'est ça. OK, Karen.
Moi, je vous parle d'un Québécois, un petit pas fin, qui est en Colombie. Il s'appelle Sacha Lemaire Lepage. Il a 38 ans, puis il s'est fait arrêter par les autorités colombiennes dans les derniers jours. Lui, il faisait des événements. il y a des événements genre être pilote d'un jour, d'avion, d'hélicoptère. Mais lui, c'était être un narcotrafiquant d'un jour. Et...
Ben voyons.
Ah oui. Nico, arrête de rire, je suis sûr que ça te tente.
T'as le profil.
Oui, c'est moi les grosses drogues.
Fait que là, lui faisait...
Non, mais de vivre ça de l'intérieur, de vivre de la peur de te faire tirer.
Non.
Non.
De faire des gros parties.
J'ai quitté Beauport.
Ah. On était rendu dans Vanier, je sais pas ce qui est mieux pour
toi. D'avoir des centaines de pitounes à tes genoux.
Ouais.
Autour de la piscine.
Je saurais pas comment gérer ça non plus.
Ah. Bon, les gens faisaient des... Ben, pas les gens, mais les gens... Oui, les gens payaient 5 000 $ pour assister à ces parties-là dans l'espoir de prendre la drogue et de coucher avec plein de filles. Lui, il se fait surnommer El Gringo. Et c'est ça. Puis là, ben, quand... Écoute, il y a même des gens de... du crime organisé qui avait payé pour être dans ces parties-là. Je sais pas, est-ce que c'était des amis ou encore des gens qui voulaient faire du repérage, de savoir c'est qui ce gars-là. Donc, il a été arrêté par les autorités avec des longues armes. Je sais pas si c'était 3-4 pieds de long comme le gars à pêche dans Saint-Raymond. Mais arrêté en plein party, il y avait 4 des 10 personnes présentes qui avaient un dossier criminel. Ben, donc, là, j'ai l'impression qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Et il y avait même une revue, un magazine qui avait fait un reportage sur lui disant que c'était un homme d'affaires prospère et le voisinage était frustré parce que lui, c'était pas les chars modifiés, mais plutôt il se promenait dans le quartier avec des véhicules de luxe, il était arrogant, portait des armes, s'arrêtait, menaçait tout le monde. Donc, en voyant ce portrait-là dans le genre de 7 jours de la Colombie, on dit, mais notre voisin, là, c'est pas tant un bon gars, vous devriez peut-être regarder ce qui se passe chez eux. Donc, là, le party, il est fini.
On finit de vivre ça.
Ouais, mais narcotrafiquant d'un jour.
Ah, c'est ça capoté. Dan, t'allais dire?
Non.
Okay. Bon, moi, ma nouvelle du jour n'est pas nulle part. C'est une nouvelle que Karen va m'aider à compléter parce que j'ai pas tous les détails. Puis si j'ai repensé à ça hier, puis j'ai bien hâte de voir. Puis c'est vraiment drôle que ça s'est rendu à moi parce que le cousin à ma blonde qui habite dans les Maritimes connaît ce gars-là. Ont des amis communs ou je sais pas trop quoi, ils connaissent ce gars-là. Le gars, il s'appelle comment, Karen?
Il s'appelle Ryan Keeping.
Ryan Keeping est un gars des Maritimes.
Ouais, Halifax.
D'Halifax, c'est ça, puis Phil, il reste à Halifax, qui a décidé de faire la traversée du Canada en courant. Mais il s'est mis des objectifs vraiment capotés. Bon, premièrement, il fait ça parce qu'il veut ramasser des fonds contre le cancer ou pour aider la recherche sur le cancer. Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, c'est pour une maladie, là, mais c'est pour le cœur, notamment.
Le cœur, ouais. OK. Donc, lui, il se donne ce défi-là. C'est dans sa famille hein, qu'il y a eu des problèmes cardiaques?
Oui, exactement. Son grand-père et son père qui ont été affectés par des maladies cardiaques. Et récemment, là, des membres de sa famille ont été testés positifs pour justement là, ce même gène-là qui cause des problèmes au cœur.
Donc, Ryan Keeping a tout simplement décidé de ramasser des fonds et de traverser le Canada. Évidemment, vous allez... Et c'est un peu ça, inspiré de ce que Terry Fox a voulu faire.
Ouais.
Sauf que Terry Fox l'a fait pour sa vie. Et c'était lui qui était... Et c'est drôle, hein? On avait commencé à parler de ça par une obstination banale. Ma blonde et moi, à un moment donné, on commence à parler de l'affaire de Terry Fox. Ah oui, on va à Ottawa et devant le Parlement, pas sur le Parlement, mais devant le Parlement, il y a des bâtiments. Il y a un bâtiment, entre autres, du gouvernement fédéral et il y a un bronze de Terry Fox. OK, parce que partout ailleurs, sauf au Québec, à Québec, on s'est aperçu que pour honorer quelqu'un, un bronze, c'était parfait. C'était mieux que de le faire en carton ou avec du fer découpé en morceaux. Fait que... Il a en fait un bronze de Terry Fox, et là, il y a l'histoire. Puis ma blonde me dit, je me souviens quand il est passé à Montmagny, Terry Fox.
Ah, oui.
Ouais, fait que là, ah, ouais, puis là, on fouille. Puis là, il était passé à Montmagny, telle date. Puis là, je dis, mais là, Marie, ça marche pas, là. Tu te souviens de ça? Elle dit, oui, je m'en souviens comme c'était hier. J'étais bébé, là, mais... Mais j'ai dit, bébé, mais il n'est pas accouché, bébé. Là.
Oh, OK.
T'sais, fait que il était pas né encore quand il est passé.
En 80
sa mère est enceinte.
Mais
oui.
Elle s'en souvient.
Ça démontre que se faire raconter nos souvenirs souvent, comme là, ouais. Dans le cas, c'est sa mère qui a raconté ou qui a raconté l'histoire de Terry Fox souvent parce qu'ils l'ont vu. Puis mon beau-père m'en parlait encore hier, il se souvenait très bien quand Terry Fox est passé. Fait que ça avait marqué l'imaginaire.
Lui, le beau-père
lui était là. Lui était là, puis il s'en souvenait pour vrai. Fait que c'était vraiment drôle. Puis ça m'avait amené... D'ailleurs, on avait écouté un documentaire sur l'histoire de Terry Fox. Puis c'était pas tout le temps facile, là. Tu sais, aujourd'hui, il est devenu un icône canadien. Mais au moment où il traverse le Canada, il est pas mal moins icône. On va dire une affaire. Ouais. C'est tough. Il a été très malade. Il a interrompu à quelques reprises sa démarche. Il a été également... Ça a été très difficile à cause de la température et tout ça. Et là, le gars dont on revient à l'histoire... qui va se passer au Québec là. Il devrait être dans la région de Québec en fin de semaine.
Okay.
Fait que vendredi, samedi,
il marche, il court, il fait ça comme
lui, c'est ça. Le défi, il est, moi je pense, irréalisable. Okay. J'imagine qu'il savait dans quoi il s'embarquait. Fait que lui, il s'est dit, pour rendre mon défi un petit peu plus surnaturel, je vais traverser le Canada à la course en 99 jours.
Ouais.
Voici mon trajet, c'est tant de kilomètres, divise ça par 99.
C'est 75 par jour qu'il veut faire.
Ça. Ouais.
Hey, c'est de la peau.
Je fais même pas ça en char, moi.
C'est quasiment deux marathons.
C'est terrible.
75 kilomètres par jour, mais le lendemain, ça recommence, puis il en fait un autre. Là.
99 jours en ligne. Il veut faire 75 kilomètres.
Lui, c'est un gars qui fait des ultramarathons. Il est entraîné pour ça, mais quand même, c'est d'intensité anti-pêché. Et le 26 avril, il sera à Saint-Louis du AA, à Saint-André, station Saint-Aubert, le 27.
Il passe dans le haut des terres. Okay.
Après ça, à Beaumont, le 29, Drummondville, Villeroy, le 30, Drummondville, le 1er mai. Puis après ça, ben là, il est le Perrault, etc.
Donc, il passe de Beaumont à Drummondville. Donc, il va passer vite dans Lévis. Là, je ne sais pas par quel endroit. Est-ce que tu as le trajet? Est-ce que tu es capable de voir si on sait sur quelle route il va passer pour les gens qui voudraient l'encourager? Ça semble très précis, là, son trajet.
Vous pouvez regarder. Moi, je suis sur un site là qui s'appelle... Ben, en fait, c'est sur son site à lui, là, ryankeeping.com. Vous avez l'itinéraire. Puis, il y a également une application sur son site là où est-ce que vous pouvez le suivre en temps réel. Il y a également son compte TikTok, son compte Instagram. Vous le voyez courir. Lui, plus battante neige, ça ne le stresse pas, là. Il court.
Ah, mais ça m'impressionne parce que je le ferais pas en moto. Pour vrai, là. J'essayais de regarder ça. Tu sais, 75 km, c'est en moto, c'est pas grand-chose. Mais 99 jours de suite, écœuré noir.
Le 2 mai, Steph, il est à Drummond. Le 3 mai, il est à Toronto.
Ouais, c'est ça. Il fait un bout en avion.
Pas de sens. Il va bien trop vite.
Ouais, c'est ça.
Il vise 100 000 en dons. Il vise 100 000 $ en dons. Il est rendu à 55.
Ah, quand même. Ouais. Donc, mais j'imagine que les gens qui vont le voir passer vont participer. Ouais, des fois, ça peut être 5 piastres, là. C'est pas grand-chose, mais relever un défi physique de ce niveau-là, c'est vraiment impressionnant de le voir, puis de sacrifier 100 jours de sa vie là, à faire ça. Puis ce qu'il sait pas, c'est que rendu à l'autre bout, il faut qu'il revienne. Comment il va gérer ça?
Il va marcher.
C'est toujours ce que j'ai haï du curling. Moi, j'ai joué un peu au curling, puis tu balayes, t'arrives à l'autre bout, il faut que je retourne.
Ouais, tu rebalayes encore.
Faut que tu rebalayes encore, puis souvent t'as soif, mais t'as bien resté là-bas.
Mais les souliers sont mieux qu'à l'époque où t'as joué.
Ouais, oui. OK, ouais, ça s'est amélioré.
On a amélioré ça.
Ah oui, on est moins soufflé. Ouais.
Je n'ai même pas imaginé ses orteils à lui à la fin de la journée.
Ouais. J'ai hâte de voir s'il va y avoir des problèmes physiques après ou. Tu sais, j'ai pas vu de journée de pause. Peut-être que. Il en a planifié. T'sais, il peut dire, je vais courir pendant 99 jours, mais à tous les 6 jours, je prends un jour off. Tu sais, comme les gens qui travaillent ici dans les champs ou d'autres, ils prennent une journée off
ou
de temps en temps.
Ou comme toi.
Ou comme moi.
Après 3 semaines de job, une semaine off.
Ben, c'est de la recherche.
6 semaines,
oui. C'est pas des vacances. Là. Okay. Je m'en vais pas en vacances
non,
en Espagne.
Non,
Mais non.
Hey, d'ailleurs, il y a un couple qui nous écoute en Espagne depuis ce matin.
Tu sais?
Oui, ils sont là.
Manger de la...
France et son conjoint.
Ils sont à quelle place?
Ah, ils me l'ont pas dit, par exemple.
Ils t'ont pas dit où?
Non.
Parce qu'on a une collègue qui s'en va en Espagne, mais je pense que là où il s'installe à Barcelone pour plusieurs jours.
C'est-tu beau? T'es-tu déjà allé à Barcelone?
Non.
Ah, c'est magnifique.
Hey. J'essaie, là, je fais un pays à fois, là. Okay. Puis là, je vais même pas à Barcelone, de toute façon.
Okay.
Là, je vais à Malaga. Ouais. Je vais aller voir Gibraltar, parce que semble-t-il que c'est impressionnant, parce que ça appartient à la Grande-Bretagne, et c'est tout petit. C'est même pas un village. Fait que je vais aller voir ça.
Il y a de plus en plus de Québécois qui sont... Là, tu parlais de Malaga. Les gens arrivent à Malaga,
oui.
Puis ils passent l'hiver à Torremolinos.
Okay.
Il y a de plus en plus de Québécois qui vont là, parce que c'est moins cher qu'aller en Floride, parce que t'as une température pas tout le temps de 32 degrés comme
ouais.
À Cancun, mais agréable quand même. Puis le coût de la vie pour les touristes est très bon.
C'est moi, mon chum Marco Prévost, il est allé 2 semaines. C'est loin de maison, là à
ouais.
Torremolinos.
Ouais.
Puis il me semble que c'est là, en tout cas.
Ouais.
Et il dit qu'il en venait pas. Aller au restaurant, sa blonde aime les bulles, bouteille de bulles, bon souper les deux. Pour en bas de 100 euros.
Exact.
Il dit c'était vraiment pas cher. Fait que il dit c'était agréable, on est sorti plus qu'on pensait. Fait que j'ai bien hâte de voir à Malaga.
Tu peux avoir un petit studio dans un gros building, Steph, là.
Ouais.
Imagine-toi un gros building, mettons, de je sais pas, 300-400 mini-appartements sur le bord de la mer, OK? Tu peux avoir un studio là. J'ai pas dit 3 chambres à coucher là, avec un garage intérieur, là.
Mm-hmm. Okay?
Un studio là, pour un couple, là, tu peux avoir ça pour 50 piastres par jour.
Ah ouais, fait que ça va à peine, ça
c'est
peut
pas
faire.
Cheap, là. C'est
non.
Juste un espace de vie. Là.
Exact. Puis les plages sont quand même belles.
Ouais.
Tu l'as dit, c'est 25 degrés l'hiver à peu près. Là-bas 20-25, là ça va varier.
Il y a des mois que c'est 18 là.
Ouais oui, c'est
mais
ça.
C'est correct, les ouais, gens ils savent puis. Il y a de plus en plus de Québécois là.
J'ai bien hâte de voir et de découvrir l'Espagne. Je vais là en exploration, bien sûr, pour pouvoir mieux vous en parler. J'aurais aimé avoir le temps, avoir eu du temps. J'aurais aimé traverser en Afrique, aller dormir dans le désert. J'ai des amis qui l'ont fait. Ils sont allés dormir dans des tentes dans le désert, mais tu sais, des tentes 5 étoiles. Il y a une tente restaurant. Il y a une tente qui est ton appartement, si tu veux. Puis il y a une piscine creusée.
C'est des tentes juste parce que c'est dans le désert, parce que c'est comme des chambres d'hôtel.
C'est ça, exactement, d'un luxe fou, là, okay. Tu sais. Mais ça a l'air que c'est vraiment impressionnant de voir le coucher du soleil, puis d'être si loin de la civilisation. Semble-t-il que c'est très, très, très impressionnant. Bon, ben...
Tu restes à Pintante. T'es pas payé loin de la civilisation.
Oui, je suis assez à l'écart de la civilisation, puis j'aime bien ça. Il y a une autre petite nouvelle, vite, que j'ai trouvé un peu bizarre un matin. Ça se passe à Toronto. Vous savez qu'à Toronto, il y a des gens qui s'objectent maintenant contre les buildings en hauteur. Mm-hmm. Puis là, il y a un gros débat en disant, ben oui, mais t'as vu, là, tout le monde au Canada cherche du logement. Puis là, nous autres, on lève des buildings en hauteur, puis vous dites que ça fait pas. Parce que là, il y a 2 autres tours de plus de 300 mètres qui sont en construction actuellement à Toronto. Et c'est là que ça a levé... Il y a un soulèvement de... Mais souvent, c'est des petits groupes de personnes. Mais pourtant, de lever en hauteur, c'est un peu ça la solution. Pourquoi? Parce que, oui, il y a des étages que vous allez appeler des logements de luxe qui sont... J'allais dire hors de prix.
Mais ça finance les logements
abordables.
Ben oui.
Tu sais, le gars qui va se payer un appart de 5 millions au 30e étage ou 50, je sais pas combien il y a d'étages, là. Mais tu sais, lui, il a une vue incroyable ou imprenable, mais il va payer un prix de fou, ce qui subventionne les logements d'en bas que moins de monde veulent parce que la vue qu'ils ont, c'est sur le building d'à côté. Puis si les stores sont ouverts, ben passe pas tout nu parce que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te voir. Tu sais, fait que c'est... Mais c'est un peu la façon de faire dans des grandes villes maintenant pour être capable de loger un peu toutes les classes sociales des gens qui peuvent travailler dans la ville et œuvrer dans la ville. Fait que je trouve ça un peu décevant de voir... Moi, je trouve ça tellement beau, une ville avec des gratte-ciels, que je trouve ça décevant.
Mais est-ce que le gars qui paye 5 millions son appart, là, il a le goût d'habiter avec la personne qui paye 1002 son appart en bas?
Oui, parce que c'est quand même pas un itinérant, là. Puis, 1002, je dirais que ça se peut pas, là. Tu sais, des apparts en bas de 2000 à Toronto, d'après moi, c'est rare en Joie-le-Vert.
Je suis d'accord avec toi.
En 89,